se reconnaît un écologiste.
Les quotas de thon rouge.
Les OGM aujourd'hui ne servent à rien.
Respirez à fond.
Mais je sens plus mes pieds.
C'est chiant, les gars.
C'est la nature qui est chiant.
Tu préfères les bagnoles?
Peut-être. Il commence à me taper sur le système, ces oiseaux.
Je ressens d'une manière fondamentale, endémique, coléreuse, des envies de dire aux autres un certain nombre de choses pour essayer de transmettre, pour essayer d'être fraternel. Alors oui, il y a des colères inextinguibles qu'il faut avoir, d'autant que je crois qu'on rentre dans une grande terre de confusion.
Voilà donc la voix de Jean Vautrin, cet écrivain que l'on retrouvera en deuxième partie de l'émission. Bonjour à tous, heureux de vous accueillir dans ce magazine de nature et d'environnement, CO de mon amour, parce qu'on n'attend pas le changement, mais que nous sommes nous-mêmes le changement, avec Valentin Hazan et Élise Christophe à la technique, notre stagiaire Maud Sarano, assisté de Séverine Bouvard, c'est Christophe Imbert qui réalise l'émission. Alors ça commence par une petite humeur. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? J'ai entendu que le Nutella c'était pas bon. Alors c'est vrai que c'est pas du tout un bon désherbant le Nutella, je suis assez d'accord. C'est pas très bon non plus comme joint de fenêtre. Enfin bref, donc il y a une petite cacophonie gouvernementale. Et le sujet de discorde du moment c'était le glyphosate, donc qui incarnait donc cette cacophonie, cette molécule miracle et ses adjuvants qui font le bonheur de Monsanto et qui est fortement suspecté de délivrer son lot de cancer à la profession agricole. Alors le glyphosate est classé cancérogène probable pour l'homme par l'OMS, et le duo un petit peu Ahuadia du jour, enfin cette semaine, a été assuré par la soprano Ségolène Royal et le ténor Stéphane Le Foll. Oui, monsieur Le Foll est énormément opposé aux pesticides, mais que voulez-vous, il faut continuer à exporter. Et que serait la filière agroalimentaire tricolore sans le recours aux pesticides? En somme, le réalisme économique avant toute chose.
Et alors ne me parlez pas, mais de ce principe de précaution, hein? Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Bon, d'accord, on a mis 50 ans à interdire l'amiante. On va bien faire traîner un petit peu quand même le glyphosate, faut pas exagérer. Et on peut aussi tomber dans l'écologie modérée, chère à Maud Fontenoy, invitée dans tous les médias, dont largement le nôtre. Et là non plus, en tout cas, il faut beaucoup modérer le principe de précaution. Cette hérésie qui empêche la science d'avancer, mais je vous rassure, même inscrit dans le marbre de la Constitution, le principe de précaution ne dérange pas encore grand monde aujourd'hui. Quant au cancer potentiellement généré par les pesticides, eh bien, comme tout le monde a tendance à développer le sien, un jour ou l'autre, allez donc prouver la responsabilité du Roundup Direct et de ses clones dans cette affaire. Alors que souvent, en matière d'environnement et de santé publique, le ministre estime qu'il est urgent d'attendre. Alors de son côté, Ségolène Royal, elle chantait une autre partition puisqu'elle demande aux jardineries, ces officines du petit chimiste en herbe, de ne plus vendre aux particuliers le fameux désherbant. Moi, je tiens à saluer l'enseigne botanique qui avait ça déjà depuis de très nombreuses années. Le jardinier amateur, c'est assez notoire, n'a pas toujours la main légère. Quand il s'agit de désherber une allée gravillonnée, il n'y va pas de main morte. Hein. Et pour certains, si le napalm était à sa disposition, faut le dire, il n'hésiterait pas à en asperger quelques pissenlits, quitte à occasionner, vous savez, ces petits dommages collatéraux. Parce que d'un côté, on va arroser son potager avec la nappe phréatique, mais si elle est polluée, c'est ça l'écologie, c'est quand même la science un peu du grand tout. On pourra gloser autour de la disposition annoncée. L'obligation pour le particulier ayant déclaré la guerre aux liserons de passer désormais par un vendeur certifié pour obtenir sa dose de Roundup, évidemment ça peut un peu déconcerter. D'ailleurs on imagine des jardiniers se ruer chez leur fournisseur de poison avec une ordonnance à la main quant à la vente discrète du produit interdit derrière le comptoir, c'est pas exclure. Oh attendez, là j'ai encore un peu de stock à prix d'amis, monsieur Labèche, c'est de la bonne, elle tue tout. Oui, justement elle est bonne parce qu'elle c'est efficace. Non, pas de chèque. Cela dit, l'idée de proposer des alternatives pacifique au désherbage chimique à tous les dépendants du Roundup mérite quand même d'être salué. Et à CO2, on va même gagner du temps pour les intéresser. La méthode alternative, on la connaît depuis belle lurette. Elle tient en trois lettres. BTP, prends ta binette et paille le sol.
CO2, mon amour, avec Denis Chessou sur France Inter.
Et voilà, et ça c'est pas évidemment Jean-Pierre Raffin, que je suis ravi de retrouver, qui me dira le contraire, président honoraire de France Nature Environnement. Vous avez fait il y a 20 ans à peu près, donc les débuts de CO2 Mon Amour, cher Jean-Pierre. Donc vous êtes aussi scientifique, hein, vous êtes enseignant-chercheur pendant de très nombreuses années. Vous étiez donc à Jussieu, dans un endroit un tout petit peu amianté, voilà, joie bonheur. Et vous êtes aussi donc un scientifique chrétien, d'où votre présence avec cette encyclique du pape. Et puis bah, nous avons ce numéro de La Vie qui vient de sortir, L'écologiste, le pape François peut-il réveiller les consciences? Avec vous Jean-Claude Noyer, parce que vous êtes évidemment journaliste à La Vie et puis aussi le co-organisateur des Assises chrétiennes de l'écologie. On en dira un mot, qui se tiendront donc cet été. Donc il y a cette encyclique du pape qui est très intéressante, parce que c'est en fait une lettre qui a été adressée aux évêques, au peuple chrétien, et il faut le dire, à toute la famille humaine, hein, je le disais, croyant, pas croyant, il y a quand même quelque chose d'extrêmement fort qui se passe là. Le Laudato aussi, c'est un titre franciscain, hein, c'est tiré du cantique du soleil, et donc c'est un appel au monde entier à prendre conscience du péril qui est couru donc par les hommes. Et c'est vrai que c'était extrêmement attendu, Jean-Claude Noyer, donc cette histoire.
Oui, ça fait longtemps que les écologistes la réclamaient, Nicolas Hulot le premier par exemple. De fait, les papes précédents ont beaucoup parlé d'écologie, mais ils n'ont pas produit un document qui fasse à ce point référence autorité, à savoir une encyclique avec ce caractère solennel qu'elle peut avoir. Et en l'occurrence, là, on est bien servi parce que le texte ne mâche pas ses mots, il va à l'essentiel. Et comme le dit encore Nicolas Hulot, il donne à l'écologie une vraie assise, il lui donne ses lettres de noblesse.
Alors on est en plein en fait dans la décroissance, on viendra d'ailleurs aussi à cela, c'est-à-dire qu'en gros c'est sortir de la spirale d'autodestruction dans laquelle nous nous enfonçons, c'est ce qu'écrit donc le pape. Le climat est un bien commun, bon tout ceci on le dit nous évidemment depuis de très nombreuses années, mais ce qui est fort c'est que quand même il y a 1,2 milliard de chrétiens me semble-t-il donc dans le monde, 50% en Amérique du Sud et aussi en Afrique. Qu'est-ce qui vous a touché vous aussi Jean-Pierre Raffin?
Ben, je dirais que moi j'ai beaucoup apprécié cette encyclique pour trois raisons. D'abord en tant qu'enseignant, ayant participé à la fondation de l'enseignement de l'écologie à l'université Paris 7 en 1970. Et donc la discipline scientifique, et le pape François redonne la dimension qui a toujours été celle de l'écologie, qui n'est pas uniquement les petites fleurs, les papillons, mais c'est l'homme et son écosystème. C'est ça l'écologie, la vraie écologie, ce n'est pas d'un côté l'homme et de l'autre côté le reste, c'est un ensemble vivant. Et d'ailleurs, à plus forte raison, lorsque, après un colloque de l'UNESCO en 68, a été lancé à l'échelle internationale le programme L'homme et la biosphère. Donc tout ce qui touche à la société, qu'on a tendance à tirer vers l'écologie humaine, fait partie de l'écologie. Et le pape François remet l'écologie telle qu'elle était à l'origine. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, en tant que bénévole associatif depuis un demi-siècle, bah, nous avions essayé de prendre en compte les données de l'écologie scientifique pour les faire passer dans le fonctionnement de notre société. Et donc là aussi, on partait de l'écologie scientifique pour modifier ce qui n'allait pas. Et ce que disait Jean-Paul II lorsqu'il parle de la crise écologique, ce que redit le pape François. Et puis la dernière raison, en tant que catholique, depuis un quart de siècle, j'ai fait partie d'une équipe qui essayait de sensibiliser notre Église catholique française à ces questions-là. Elle était relativement frileuse et à prendre en compte les différentes dimensions de la crise écologique dont parlait déjà Jean-Paul II. Donc bravo à l'encyclique.
Bon, c'est une question que je vous poserai aussi donc à tous les deux pour voir effectivement cette frilosité qui remonte d'ailleurs à très longtemps, hein, de la part de la chrétienté par rapport à ces problèmes donc environnementaux, même si aujourd'hui bien sûr des choses se font. Donc qu'est-ce qui vous semble fort, vous Jean-Claude Noyer, et alors quelle méthode a été employée aussi pour sortir cette... parce qu'on pas toute la détailler, c'est pas possible, hein, donc.
Non, ce qu'on peut dire c'est que le pape a une approche holistique. Il s'intéresse à la crise écologique plutôt dans sa complexité, dans sa totalité, en intégrant toutes les composantes sociales, économiques, financières, politiques, mais aussi, et c'est ça qui est intéressant, les composantes culturelles et spirituelles qu'il analyse en s'appuyant sur les fondements de la tradition judéo-chrétienne. ce qui le conduit à proposer une écologie intégrale qui fasse, comme l'a dit Jean-Pierre Raffin, toute sa place à l'homme.
Alors c'est ça, non, mais le terme, c'est important, écologie intégrale. On n'est pas censé connaître ça, vous voyez ce mot-là.
Écologie intégrale, c'est une écologie exigeante qui fasse toute sa place à l'homme, qui part de l'idée que si on blesse la terre, on blesse l'homme, voilà, et réciproquement. C'est une écologie qui fait sa place aussi à la spiritualité et à l'intériorité, avec cette idée que la crise écologique prend source dans un espèce d'effondrement spirituel de l'humanité aujourd'hui, ou en tout cas un manque de sens, une question de sens qui pose problème.
Et ce que peut d'ailleurs aussi très bien se dire des laïcs. Hein, qui,
tout à fait, tout à fait, oui. Sauf que, selon dans la perspective chrétienne, la réponse peut être une réponse en termes de spiritualité, de vie de prière ou de vie contemplative. Il y a un appel à la contemplation dans ces clips. Moins de consumérisme, plus de contemplation.
Et moins il dit que ce n'est pas une chose inutile, c'est-à-dire que dans une grande série où effectivement à partir de 8 ans on a envie de bourrer l'agenda d'un gamin de peur qu'il ne fasse pas l'ENA à 14 ans et demi, donc il n'arrête pas. Donc non, cette notion de méditation, de contemplation...
De lenteur. Ralentir, prendre le temps de contempler la beauté du monde. Et c'est en contemplant la beauté du monde qu'on est amené à le respecter, à l'aimer, à le protéger. Donc il y a un lien très intéressant qui fait à ce sujet, mais que font aussi d'autres représentants de l'éco-spiritualité ou de l'éco-psychologie. Et puis il termine sur un appel clair à la conversion écologique fondée sur une spiritualité écologique aux accents très franciscains, comme vous l'avez déjà dit. Hein.
Et donc, moi, je vous renvoie donc à ce numéro de la vie. Hein. Le pape François peut-il réveiller les consciences? Vous avez énormément d'informations. On va poursuivre, bien sûr, ce voyage avec vous. Donc, il y a ce côté vraiment décroissant, s'arrêter avec la consommation. On le voit bien. Donc, ça doit heurter un certain nombre, évidemment, de personnes. On l'a très bien vu aussi aux États-Unis. Hein, les républicains
Bush,
en particulier.
Bush,
oui. C'est pas très compatible.
Pas très content. Il dit qu'il va pas à la messe pour entendre parler d'économie et de politique. Mais bon, ça, c'est une vision étroite de la vie chrétienne.
Tant pis pour lui, il ne parle pas de décroissance de la musique, donc pour nous c'est parfait. France Inter, CO2 de mon amour, notre premier disque choisi par Thierry Dupin. Ouais. Bel après-midi à tous.
Work one morning down the path alongside the lake. A tender-hearted woman saw a poor half-frozen snake. His pretty colored skin had been all frosted with the dew. Oh well, she cried, I'll take you in and I'll take care of you. Take me in, oh tender woman. Take me in, yes, for heaven's sake. Take me in, tender woman. Sighed the snake. Now she wrapped him up all cozy in a coverture of silk, and then laid him by the fireside with some honey and some milk. Now she hurried home from her work that night as soon as she arrived. Now she found that pretty snake she'd taken in had been revived. Take me in, oh tender woman. Take me in, for heaven's sake. Take me in, tender woman. Sighed the snake. She clutched him to her bosom. You're so beautiful, she cried. But if I hadn't have brought you in, by now you might have died. Now she stroked his pretty skin again and then kissed and held him tight. But instead of saying thanks, that snake gave her a vicious bite. Take me in, oh tender woman. Take me in, for heaven's sake. Take me in, tender woman. Sighed the snake. Now I saved you, cried that woman, and you bit me even a while. And you know your bite is poisonous, and now I'm gonna die. Oh, shut up, silly woman, said that a reptile with a grin.
take me in, oh tender woman. Take me in, for heaven's sake. Take me in, tender woman. Sad the snake. Sad the snake.
C'est ta voiture de bouffe qui consomme 10 litres au 100 en ville, ou c'est moi? Je t'offrirai une auto à pédale pour Noël pour t'amuser et un abonnement à CO2 Mon Amour avec Denis Chessou.
Voilà, qui vous parle donc de l'encyclique du pape avec des phrases quand même extrêmement fortes. Le cri de la terre et celui des pauvres se rejoignent, Jean-Claude Noyer. Donc là, justice sociale et écologie, même combat avec Frédéric Denry. On dit très souvent que l'écologie c'est une des premières sciences sociales, mais on est en plein dedans.
Oui, complètement. Et le pape insiste beaucoup sur cette idée de justice inhérente à la résorption des problèmes environnementaux. Il faut articuler les deux. Et il montre bien que les dimensions sociales et environnementales sont effectivement étroitement mêlées. Il parle par exemple de justice climatique avec des mots très forts. Donc on est dans le sujet. On est vraiment là dans cette exigence d'une charité étendue pas seulement aux hommes, mais aussi à l'ensemble du vivant, à la diversité biologique. Et que c'est dans cette charité appliquée à l'ensemble du vivant que les hommes arriveront à vivre mieux entre eux.
Mais c'est vrai que ce sont des messages que l'on passe, une fois de plus, croyant, pas croyant, etc. Mais vous avez un homme à propos du climat, ça me revient là tout de suite en vous écoutant. C'était pas exactement la même sensibilité, enfin, quoique c'était aussi un pays tout à fait chrétien, donc le Venezuela. Donc Hugo Chavez qui disait que le climat serait une banque, il y a bien longtemps qu'on l'aurait sauvé. Vous voyez, donc c'était ça. Il avait le sens de la formule, l'animal. Donc c'était ça. Jean-Pierre Raffin, je me retourne vers vous. Si vous prenez cette émission en cours, Jean-Pierre Raffin est le président honoraire de France Nature Environnement. Il connaît bien ces sujets. C'est aussi donc un scientifique, c'est un chrétien. C'était grâce à lui que nous avons pu avoir des études d'écologie, disons-le. Oui, oui, en France, et donc en université. Alors justement, le mythe de la science, là aussi, ça peut être très intéressant. Quelle est la réaction là-dessus du pape dans cette encyclique?
Ce qui est intéressant, c'est que le pape François indique, comme l'avaient dit les écologues, que nous avons des limites et qu'il faut accepter d'avoir des limites.
Oui.
Ce que refuse le scientisme, qui répond, on trouvera toujours une solution, il n'y a pas besoin de se faire du souci, la science, le progrès, nous permettra toujours de nous sortir d'une situation malaisée dans laquelle nous sommes. Ben non, nous les écologues, ça fait très longtemps qu'on dit, la planète est une planète finie, les ressources ne sont pas indéfinies, même si un économiste au début du 19e, qui était Jean-Baptiste Say, disait « les ressources naturelles étant infinies n'ont pas à entrer dans le champ de l'économie ».
Bravo Jean-Baptiste.
Non mais ça montre, je dirais qu'on est parti dans une voie qui pouvait s'expliquer au milieu du 19e. Le monde était encore à découvrir, mais il y a belle lurette qu'on s'est aperçu qu'il y avait des limites. Et je prendrai une phrase qui a été prononcée lors d'un rapport d'où il y avait deux écologues français importants, qui étaient François Bourlière, un grand médecin et un grand écologue, et René Dubos, qui est très oublié en France, parce qu'il a beaucoup travaillé en Italie, et le colloque sur les ressources de la biosphère de 1968, septembre 68, disait ceci. Cette doctrine, il parlait de l'équilibre de l'homme et des écosystèmes, est difficile à concilier avec l'orientation actuelle de la civilisation moderne qui repose sur l'idée que l'homme, à l'image de Faust, ne doit reconnaître aucune limite à son pouvoir. Et donc, on fonctionne avec cette idée-là, qui est une idée fausse.
Alors,
c'est ça qui est important.
Le reste prométhéen que dénonce souvent Jean-Marie Pelt.
Ben oui.
Jean-Marie Pelt sera d'ailleurs à nos assises chrétiennes de l'écologie aux côtés de
Jean-Marie. On y reviendra à Saint-Étienne, on y reviendra.
Et non, tout à fait, c'est la toute-puissance de l'homme occidental étendue maintenant malheureusement à l'ensemble du monde, de la planète, qui est aussi à la source directe des dégâts en cours et des graves périls que nous courons. Graves périls que rappelle à plusieurs reprises le pape, qui prend l'affaire très très au sérieux. Il évoque même la possibilité d'un scénario d'effondrement, ce qui m'a surpris, il va jusque-là.
C'est-à-dire qu'il y a, beaucoup effectivement de rapports scientifiques hein, donc, qui ont été lus, qui ont été donc moulinés pour parce qu'on retrouve presque un programme écologique hein, vraiment dans cette cette encyclique véritablement. Et donc il le dit, l'heure est arrivée de réaliser que cette joyeuse superficialité nous a servi. Et donc il ajoute, l'accumulation constante de possibilités de consommer distrait le cœur, empêche d'évaluer chaque chose et chaque moment. Non, mais c'est vrai que c'est une petite révolution dans ce monde très matériel.
Il dit que moins, c'est plus. Moi, comme écologiste chrétien, ce que j'entends, c'est moins de bien, plus de lien, qui pour moi a vraiment une profondeur évangélique réelle, comme le slogan.
On est parti là sur le thème, effectivement, science. L'homme maître et possesseur de la nature.
Cette lecture qui est héritée de Descartes a été remise en cause par un certain nombre de théologiens il y a fort longtemps, mais on n'en a pas parlé. Je prends le cas d'une revue qui s'appelait Aujourd'hui, qui a publié en 1975 un dossier qui s'appelait « Les chrétiens et la gestion du monde ». Donc on est vraiment dans l'instant où étaient intervenus des protestants, des catholiques, qui remettaient en cause, il y avait le père Dubarle, qui était ancien doyen de la faculté de théologie de Paris, qui disait « Cette idée, l'homme maîtrisant et dominant propriétaire de la terre, est une hérésie ». Et le pasteur Dumas disait exactement la même chose.
Donc,
François reprend cette idée.
Oui, non, mais elle remonte, on va dire, à la surface. Ce qu'il y a, c'est que, en fait, le Parlement, autrement dit les évêques, ne sont pas forcément des gens qui sont très scientifiques. Hein. J'ai regardé ça. On est plutôt chez des littéraires là aussi. Donc,
c'est-à-dire que nos évêques,
c'est pas une tare,
ont vécu l'immédiate après-guerre où les problèmes économiques, vus sous un seul aspect, étaient prédominants. Sans se rendre compte, et c'est ce que dit fort bien, ce qu'avait dit déjà Jean-Paul II et ce que dit le pape François, que économie et écologie sont intimement liées. D'ailleurs, il a la même racine, oikos, la maison commune, comme dirait le pape François, dans les deux sens. Donc, les liens consubstantiels qui n'ont pas souvent été vus.
Jean-Paul Noyer.
Ce qu'il faut dire, c'est que l'Église catholique, en tout cas, parce qu'il faudrait différencier les églises protestantes et orthodoxes, mais l'Église catholique, après-guerre, a été tout à fait partisan du productivisme agricole, industriel. Et la conversion qui est en cours aujourd'hui, c'est de revenir sur ce productivisme, sur cette idéologie développementiste, puisque force est de constater les dégâts qu'elle a produits. Mais par exemple, un syndicat comme la JAC, Jeunesse Agricole Chrétienne, était tout à fait productiviste et pour la révolution verte telle qu'elle a été pratiquée avec les engrais, etc. Donc aujourd'hui, c'est un énorme changement culturel qui est en cours.
Dites-moi, est-ce que globalement, là je remonte pas, même avant 68 ou 75, peu importe, mais est-ce que cette Église a pas été un moment complètement tétanisée lorsque, par vous avez eu Galilée, lorsque donc on a brûlé ce pauvre Giordano Bruno, qui d'ailleurs c'était pas bon pour le réchauffement climatique. Mais voilà. Non, mais est-ce qu'on n'est pas là-dedans, en train de se dire, bon, attendez, on bouge plus. Tellement on a été bloqué par rapport à ça. Donc, ce que peuvent dire les écologistes, on va faire aussi très très attention, vous voyez. Donc,
je pense que c'est un élément de réponse très très intéressant. Il y a une fixation scientiste qui, pour le coup, n'est plus d'actualité parce que effectivement, toute une partie de la hiérarchie catholique est tétanisée par les erreurs du passé, les procès qui ont été faits en répétition. Mais peut-être que Jean-Pierre, comme scientifique,
je reviens sur ce que disait Jean-Claude Noyer à propos de la JAC. Faut pas oublier aussi bien les chrétiens en monde rural, c'est la jeunesse agricole catholique, étaient motivés par les ingénieurs qui leur disaient, j'ai en tête une citation d'un agronome de 1975, qui disait, il ne faut pas se préoccuper des problèmes de pollution, il faut produire pour nourrir le monde.
Oui, ce qui était.
Non, mais c'était la logique. Bien sûr. Donc moi, je ne reproche pas au monde agricole d'être entré dans cette dynamique de productivisme
et qui a réussi à nourrir la France,
qui était indispensable
dans
l'immédiat après-guerre. En revanche, je reproche à ceux qui savaient de ne pas avoir averti sur les côtés négatifs, de n'avoir vu que le positif. très scientiste sans intégrer les effets seconds, par exemple la déstructuration complète des agricultures des pays comme l'Afrique, liée au système de subventions et autres, dont parle aussi le pape François. Nous avons cassé des dynamiques pour parce qu'elles bénéficiaient à nos dynamiques, on ne se préoccupait pas des autres.
Dans une dimension coloniale.
Exactement.
Tout à fait. Alors, y a, heureusement, on a aussi donc des jeunes aujourd'hui, alors là, qui fonctionnent très très bien. C'est eux qui ont donc le sac à dos, qu'on leur a gentiment rempli. Et donc, ils sont évidemment au cœur aussi de ce sujet. Et moi, je vous propose d'écouter un jeune garçon. Il a participé au Pacte mondial des lycéens pour le climat, qui est une très belle manifestation aujourd'hui. Ça va réunir plus de 10 000 jeunes un petit peu partout. Ils se sont réunis il n'y a pas tellement longtemps à Toulouse, avec Pena Vega Alfredo, je tiens à le citer parce que c'était le directeur scientifique de cette opération. Et donc, Thomas Estève vient du lycée Viterre, pardonnez-moi, de Charolles. Voilà, donc Thomas Estève au lycée Viterre de Charolles. Nous sommes en Saône-et-Loire, que connaît bien Jean-Pierre Raffin. Et alors donc, on a un peu envie de savoir aussi quelle solution vous avez sorti. Je rappelle que vous avez 17 ans.
Alors, donc, des propositions concrètes, au final, après la réunion, on a donc formulé 17. Alors, je vais pas tout vous les citer, mais principalement, il y a par exemple sanctuariser les biens communs mondiaux, la forêt, l'eau, la terre, avec une gestion qui serait collective et internationale. Il y a également créé un fonds international de sauvegarde de ce bien commun. Il y a créé un tribunal international des crimes contre les biens communs mondiaux. Donc, ça serait pouvoir permettre de faire en sorte que les atteintes contre l'environnement puissent être jugées à un niveau mondial et qu'il n'y ait pas de pays où on puisse échapper à la législation. Il y a également, par exemple, favoriser la coopération du local au local, c'est-à-dire avec des initiatives qui seraient donc non pas dirigées par un État, mais qui seraient faites donc au niveau local. Après, il y a également, par exemple, favoriser l'économie circulaire, c'est-à-dire une économie qui se base sur la réutilisation des déchets. Il y a aussi garantir l'exemplarité des acteurs publics en matière de lutte contre le changement climatique, donc faire en sorte que les acteurs soient vraiment engagés. Et surtout, ce qu'on attend, nous, c'est que la jeunesse soit écoutée, parce que notre génération sera ceux qui vont peut-être le plus subir les conséquences du réchauffement climatique d'ici 20 ou 30 ans. Et donc, je pense que c'est vraiment à nous de nous faire entendre par rapport donc à ces enjeux-là.
Je vous trouve tout à fait combatif dans le bon sens, Thomas, parce que...
Merci.
Mais oui, mais véritablement, c'est-à-dire que face, on va dire, au cadeau, au fardeau que l'on vous laisse, vous n'êtes pas dans la demi-mesure, c'est-à-dire que vous êtes effectivement dans un réalisme total. Vous avez le droit de juger notre génération, vous aussi, derrière, hein.
Bah, disons qu'après, l'objectif, c'est pas de faire porter la faute sur les générations précédentes. Ils n'avaient pas forcément les moyens de se rendre compte de ce qu'ils faisaient.
Exact.
Bon, le réchauffement aussi servi à augmenter le niveau de vie. Donc bon. Et puis voilà, c'est simplement que maintenant, on est face à un état de fait, qui est que le réchauffement est présent, qu'on est responsable, nous les humains, de ce réchauffement, qui va avoir des conséquences terribles sur nous et sur nos enfants, et qu'aujourd'hui, il va falloir essayer de faire en sorte de tous se réunir autour d'une table pour essayer de faire en sorte de pouvoir trouver des solutions, sachant que le réchauffement, c'est un phénomène qui est planétaire, c'est un phénomène qu'on ne peut pas limiter à un pays, et que donc il y a la nécessité vraiment d'avoir des actions qui sont internationales, qui soient coordonnées, et de pas chacun se rejeter la faute comme... Enfin voilà, c'est pas l'histoire, c'est pas de dire tel pays pollue pas, c'est vraiment faire en sorte que chacun fasse des efforts. Alors après, tous les pays n'ont pas les mêmes moyens, mais que chacun, à son niveau, puisse faire des efforts pour justement essayer de trouver des solutions.
C'est un bien commun, on l'entend véritablement. Votre génération a bien pris conscience que nous n'avions véritablement qu'une seule terre. Alors derrière tout ça, ce que nous savons les uns les autres, ce sont à la fois nos modes de consommation, de production, dont on a tous merveilleusement profité, qui sont quand même gentiment remis en cause. Pour vous, on va dire, le progrès et peut-être le bonheur, qu'est-ce que ce serait? Parce que c'est une manière aussi de revisiter ses modes de vie et son bien-être.
Aujourd'hui, il y a une notion de bien commun qui est très importante, dans le sens où la nature ne peut pas être quelque chose de privatif qui revient à un individu. Disons que ce qui est vraiment ressorti du congrès de Toulouse, c'est que chacun a le droit d'utiliser ses ressources, mais personne n'a le droit de se les approprier. Tout le monde doit avoir le devoir de faire en sorte de les conserver et de les utiliser à bon escient. Ça implique forcément donc des changements de notre mode de vivre. Reconsidérer le rapport qu'on peut avoir par rapport aux forêts, par rapport à l'eau que l'on possède. Et c'est vrai que c'est des questions qui sont importantes et puis dont on espère qu'elles seront mises sur la table à la COP21.
Thomas Estève, vous êtes dans un pays, vous, d'élevage. Donc on est à Charolles, je le rappelle, donc en Saône-et-Loire. Donc localement aussi, parce que cette affaire est à la fois mondiale, mais on sait très bien que ça relève des collectivités, ça relève de nos pratiques individuelles, ça relève des pratiques collectives. Qu'est-ce que vous avez un petit peu envie de dire, vous aussi?
Premièrement, il y a nécessité d'adapter les solutions à la région où on est. Comme vous le dites, bon, la région charolaise, c'est une région qui est historiquement une région d'élevage. On en a énormément d'élevage bovin. Et par exemple, à ce niveau-là, bon, il y a des idées qui se mettent en place, notamment l'idée de faire des fermes qui pourraient réutiliser le méthane qui est donc produit par les vaches, pour par la suite utiliser ce méthane comme énergie, vu que le méthane est un gaz qui peut servir comme énergie. Nous, par exemple, au niveau du lycée, étant donné qu'on est dans une région rurale, on a peut-être pensé à faire une ferme biologique au lycée, qu'on pourrait utiliser pour après, à la cantine, par exemple, du lycée, on pourrait utiliser les produits de cette ferme, ou alors les revendre. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment tirer parti des spécificités de chaque région, pour tenter de trouver des solutions qui s'adaptent à ces régions et pas avoir une solution globale qui, au final, sera adaptée à personne.
On compte à la fois sur vous comptez sur nous, et donc c'est cette belle chaîne que l'on va donc continuer maintenant que l'on a un peu conscience de tout ça. On vous souhaite le meilleur donc à tous les jeunes de ce lycée Wittner donc à Charolles, et puis donc à très bientôt. Merci.
D'accord,
beaucoup.
Ben merci.
À bientôt.
Au revoir
Thomas.
Au revoir.
Ben voilà, donc à 17 ans, il a de l'avenir, hein. Je trouve que c'est pas mal, hein. Donc, ben oui, bien sûr, parole de jeune, on en a besoin partout dans cette émission, mais dans la vie. Merci à Bernard Hervé, hein, son professeur, donc, du lycée Wittner aussi de Charolles, donc, en Saône-et-Loire. Le pape accuse clairement les pays riches de consommation compulsive avec cette culture des déchets. Il dit que nous avons une dette écologique envers les pays pauvres. Donc, évidemment, du côté des républicains, ça va pas plaire. Du côté des climato-sceptiques, c'est pas grave, ça plaira pas non plus. Mais c'est pas le plus important. Ça bouge bien. Je reviens sur ce qu'on disait au départ. C'est donc quelque chose qui a été attendu, mais c'est quand même un acte assez fort, même si des gens vous disent « Ah bah oui, mais on le sait depuis très longtemps ». N'empêche que dans la bouche d'un pape, c'est quand même très différent, Jean-Pierre Raffin.
Ah bah, c'est-à-dire que ça valide, en quelque sorte, par quelqu'un qui a une autorité morale importante et une autorité religieuse, des propos qui, effectivement, ont déjà été tenus, mais qui n'avaient pas le poids du magistère, qui est le poids de la parole du pape François, c'est certain.
Alors je vous renvoie donc à ce numéro de La Vie, hein, qui vient de sortir. Le pape François peut-il réveiller les consciences donc de la vie? Et puis Jean-Claude Noyer, vous êtes l'organisateur de ces assises chrétiennes pour l'écologie.
Le co-organisateur avec le diocèse de Saint-Étienne.
Nous sommes à Saint-Étienne, nous sommes fin
28,
août.
29, 30 août, un grand programme. Les premières en 2011 avaient rassemblé 1700 personnes, on espère en avoir autant sinon plus. Que dire sinon que c'est un événement convivial, 800 personnes pourront être logées chez l'habitant.
Bah, il ne manquerait plus que ce soit sinistre. Hein,
donc, voilà. Évidemment, on est là pour rigoler un peu.
Sans hein. Blague.
Et puis, des experts de renom, Gilles Boeuf, président du Muséum d'Histoire Naturelle, Jean-Marie Pelt, pour parler
pas,
de la biodiversité.
Pas,
Jean-Marie Pelt, je crois qu'il habite en Lorraine, voilà. Il me semble. Ouais. Des journalistes d'investigation, Marie-Monique Robin et Fabrice Nicolino, qui, je l'espère, va mieux, mais je crois. Des militants écologistes venus de toute la France, et le soutien de l'Épiscopat avec quatre évêques, dont le cardinal Barbarin.
Et vous avez donc le site de ces assises sur le site de CO2 Mon Amour, donc franceinter.fr. Je vous remercie beaucoup tous les deux. Et dans quelques instants, eh bien, ça va être Jean Vautrin. Elles sont plusieurs. Les négresses vertes. Oui, sur France Inter.
J'aperçois le soleil, les nuages filent, le ciel s'éclaircit. Et dans ma tête qui bourdonne les abeilles, j'entends rugir le plaisir de la vie. C'est le retour des amours qui me chauffent les oreilles. Il fait si chaud qu'il me pousse des envies. C'est le bonheur rafraîchi d'un cocktail, les filles sont belles. Et Dieu sont ravis. Enfin l'été, enfin l'été, enfin l'été, enfin l'été, enfin l'été. Enfin l'été, mais y a déjà plus d'argent. Le tout Paris se transforme en phobie. Le métro surtout devient purulent. Dans ses souliers, le passager abruti.
Toujours l'été,
toujours l'été,
toujours l'été,
toujours l'été.
t'aperçois le soleil, les nuages filent, le ciel s'éclaircit. Les dans ma tête qui bourdonne, les abeilles, j'entends rougir le plaisir de la vie. Voilà l'été, j'aperçois le soleil, les nuages filent, le ciel s'éclaircit. C'est le bonheur rafraîchi d'un cocktail, les filles sont belles et les vieux sont ravis. Voilà l'été,
voilà.
Ah bah oui, Kéri Kiki, bien sûr, donc avec un jour d'avance, toujours en avance sur l'actualité, CO2 Mon Amour et France Inter, c'était Voilà l'été. Et là, eh bien, nous allons retrouver cette voix, celle de Jean Vautrin.
Je crois que je suis surtout arrivé à un âge où si on n'est pas soi-même, on ne l'est jamais. Et finalement, c'est ça, quoi. Je veux dire, bon, j'ai 60 ans, 60 gueuses qui m'appuient sur les épaules et je me dis que c'est le moment ou jamais de dire ce que je pense parce que je n'aurai plus l'occasion de le dire après, j'aurai la voix qui chevrotera et une maladie de Parkinson. Alors, c'est le moment de crier et d'aboyer et je ressens d'une manière fondamentale, endémique, coléreuse, des envies de dire aux autres un certain nombre de choses pour essayer de transmettre, pour essayer d'être fraternel. Alors oui, il y a des colères, il y a des colères inextinguibles qu'il faut avoir, d'autant que je crois qu'on rentre dans une grande terre de confusion.
Eh oui, Jean Vautrin, c'était avec Dan Franck, la voix de Boro, reporter photographe. Il nous a quitté donc cette semaine. C'était celle de Billy the Kick, hommage bouillonnant à Queneau. C'était celle du cri du peuple de la commune. Pour dire d'ailleurs les ouvriers en rebiff, là, de graisser les machines du patronat avec de l'huile d'homme. Alors Jean, il se barricadait derrière les mots pour résister, on va dire, à la saloperie humaine. Mais il ouvrait aussi grande sa porte pour laisser entrer le beau. Alors il dessinait, photographiait, feuilletonnait, il surinait les mots, il scénarisait, il repoussait la gueuse, il gueulait la vie. Eh ouais Jean, un garçon qui était aussi gentil qu'en colère face à ce monde lobotomisé par la course au fric et au pouvoir, ce que disait aussi très bien le pape. Et donc, il trouvait les ambitions de cette société somme toute assez médiocres. Alors, qu'est-ce qu'on faisait dans ce genre de cas ? On ouvrait une bouteille pour transformer les larmes en vin, on convoquait le doux, la beauté des femmes, des fleurs, bref, on convoquait l'humain. Car Jean, tu étais avant tout une boule de sentiments. Une boule de sentiments qui interpellait le monde pour lui donner un sens. Et ta rage faisait jubiler les phrases, tu secouais la langue comme ton copain Audiard, Céline ou bien Dard. La nature, on y reviendra, mais écoutez ces mots, ils ont 22 ans et pas une ride, même les pins des Landes s'en souviennent.
Oui, à bas le cynisme de l'argent, à bas le cynisme des complaisances, à bas le cynisme des clientèles. Essayons de nous revoir et de nous re-regarder les uns les autres, essayons de nous parler, essayons de communiquer, de danser ensemble, d'être fraternel, d'être solidaire. C'est tout ça qu'il faut essayer de refaire. C'est une société qui est complètement délabrée, panurgisée, moutonnière.
Alors pourquoi la politique n'a pas les bons mots pour le dire ?
Mais je crois que les politiciens ont commis un délit d'échec, quoi, il faut bien le dire. Je crois que plus personne n'a confiance en eux et qu'ils sont discrédités. Mais en même temps, il ne faut pas être complaisant avec nous-mêmes, il ne faut pas être condescendant avec les autres. Il faut se dire qu'on fait tous partie de quelque chose et que c'est en refaisant quelque chose ensemble et en étant solidaire et en étant responsable qu'on peut refabriquer un nouveau citoyen. Si on ne refabrique pas un nouveau citoyen à l'aube de ce prochain millénaire, je crois qu'on sera tellement mal équipé pour faire face à tous les délabrements qu'on a créés, qu'on a suscités sans les voir et sans vouloir les voir, que à ce moment-là, on sera en état sociétal, on sera en état de faiblesse et on risque de s'exposer ou aux grandes barbaries ou bien au retour de l'ordre noir. Et là, j'ai l'impression qu'il y a grand danger, quoi.
Il y a une chose qui vous trouble aussi beaucoup dans Symphonie Grabuge, Jean Vautrin, c'est la faculté de banalisation que l'on peut avoir les uns les autres et le fait que cette société évacue, crée des antidotes immédiatement.
Ah oui, on vit dans une société qui ne veut pas voir son vomi, quoi. Autrefois, vous vous rappelez, il y avait un petit carré blanc en bas des écrans, oui. Et on disait attention, violence. Maintenant, tous les jours à 8 heures,
les familles françaises mettent leur soupe dans leur bouche avec les enfants à leur côté et regardent Sarajevo qui croule sous les bombes. C'est pas normal, c'est une banalisation et c'est la même chose avec la mort. Je veux dire, on ne veut plus voir la mort, on ne veut plus voir les vieillards. Avant, les ancêtres mouraient dans le cantou, dans le foyer de la maison. Et maintenant, on ne les accompagne pas, on les met ailleurs, dans un endroit où ils sont censés être bien, un endroit qui est réputé propre, quoi. On veut mettre du propre partout. Et à force de mettre du propre, on s'oublie les uns les autres, on oublie de rire ensemble, on oublie de se parler. Les gens ne se parlent plus assez.
Je crois que beaucoup de gens qui nous écoutent sont très conscients de cette immense pelote là inextricable qui est face à nous, qui est gérée effectivement par l'égoïsme, par les réactions à court terme, que ce soit politiciennes ou économiques. Par quel bout chaque individu là qui nous écoute peut se dire comment je peux agir moi là-dessus ?
Ben, en n'oubliant pas. Parce que la mémoire, c'est important. Vous savez, c'est très étrange la vie, parce que quand on arrive à avoir 60 gueuses sur les épaules, comme je disais tout à l'heure, eh bien, on s'aperçoit brusquement que tout ce qu'on a nié pendant toute sa vie, à savoir le père, la mère, toutes ces révoltes, vous savez, pour devenir quelqu'un, pour devenir un homme, pour enfin être à son compte, on s'aperçoit que tout ça s'efface et s'effrite à la fin de la vie, à l'automne de la vie. Et qu'on remet immanquablement les pas dans les pas de ses ancêtres. Et brusquement, on se surprend à voir tel tic qui vous agaçait chez votre père, ou bien tel rire de gorge qui vous agaçait chez votre mère. Et finalement, c'est bénéfique, c'est bon. On appartient à une espèce de longue chaîne, et les vies sont compromises chez les animaux comme chez nous pour ressurgir plus tard. C'est ça la chaîne du monde. Et ça, je crois qu'il ne faut absolument pas le refuser. Ce qu'il ne faut donc pas, c'est se laisser mécaniser. Au début du siècle, vous savez très bien qu'on se battait contre la machine. Hein, on voulait sortir de ça. L'homme disait, on va asservir la machine. Et à la fin du siècle, on sort avec effroi dans un monde glacial où les gens ont des yeux de glace, où c'est un chacun pour soi, et où la machine brusquement prend les emplois des hommes. Est-ce que c'est normal ? Est-ce qu'on a réussi notre siècle ? C'est pas évident, je pense que c'est à tout ça qu'il faut réfléchir. Dorénavant, il faudra faire plus attention à ceux qui n'ont rien, à ceux qui n'ont pas grand-chose. Et je m'aperçois que 250 ans après la Révolution française sur laquelle nous vivons toujours, des fossés se creusent, des inégalités ressurgissent, et je crois qu'on va fabriquer des gens qui vont être tellement désespérés qu'ils risquent d'aller vers la brutalité si on ne les aide pas, si on ne les voit pas venir, si on n'est pas fraternel, si on ne partage pas.
C'était, je le rappelle, donc il y a 22 ans, hein, donc... Jean Vautrin, Jean Hermant, le cinéaste devenu Jean Vautrin, écrivain, donc qui a fait son dernier pas vers le grand pas vers le bon Dieu cette semaine. La nature, bah pour lui, c'était une source, c'était une amie. L'écologie, Jean savait que c'était l'affaire du siècle, que l'humanité était jetée sur une paillasse de laboratoire grandeur nature et qu'elle devrait trouver l'intelligence collective de sa survie, mais peut-être d'abord au plus profond d'elle-même. C'est très émouvant d'écouter cela parce qu'en même temps, ça fait écho à ce que l'on a dit donc dans cette première partie d'émission. Alors, on le retrouve donc chez lui et quand il vivait à Uzest. Uzest est une tête d'épingle sur la carte de l'Aquitaine. Nous sommes dans les Landes girondines.
D'abord ici, je suis heureux toute la journée et toutes les saisons, c'est clair. Uzest, là où vous êtes en ce moment, c'est une terre de résistance. C'est l'enclos d'Astérix. Il y a un musicien fou qui s'appelle Bernard Lubat. Oui. Et il y a un festival de jazz.
Au mois d'août.
Il y a un pape qui est enterré, qui est Clément V, qui a aboli l'ordre des Templiers. Oui. Nous sommes entourés par les bois, par les landes. Nous sommes dans la haute lande, ici, la lande girondine.
La haute lande culmine à combien quand même ? Heureusement, c'est pas l'altitude que ça se passe.
Mais... C'est vraiment un plat pays, qui était envahi par la tuie et les marécages autrefois et qui maintenant
a été assaini.
Il y a des bois partout, il y a des forêts. Les gens sont donc chasseurs, indépendants. On décrit les gens des Landes du coin autrefois comme des gens batailleurs, querelleurs, fort en gueule, laids, capables de faire des cabrioles.
Ouais, mais il y a un peu de Vautrin dans ce portrait. Si vous avez eu l'adéquation, vous qui êtes alsacien d'origine et qui êtes devenu gascon, il y a quand même quelque chose.
Ouais, j'ai trouvé des racines. C'est-à-dire qu'en en épousant ma femme, j'ai épousé les confits, les salmis, les foie gras. Oui. Et puis, comme j'avais été élevé en Bourgogne, j'ai trahi les Bourgognes pour embrasser l'immense palette des vins du Bordelais. Il faut vous dire qu'ici, on est à un jet de salive des Graves, oui, à une portée d'arbalète des vins de Sauterne. Et de l'autre côté, nous avons les Chapons et le Bazadais, c'est-à-dire un pays d'embauche, un pays riche en viande. Et de ce côté-là, alors c'est les pauvres et c'est les fiers, c'est la lande. Et toute cette région confluente constitue une Aquitaine qui est à la fois faite de forts gaillards avec les cheveux bouclés noirs qui sont des rubiman, qui sont des guerriers, qui ont des voix de stentor, qui sont des gascons et qui sont fiers de l'être, qui sont intransigeants comme c'est pas Dieu permis. Où on a du mal à s'intégrer, il faut montrer patte blanche, il faut être bon rieur, bon paillard.
Même quand on a eu le prix Goncourt, ça suffit pas.
Non, ça suffit pas, il faut aimer la nature. Je suis arrivé à être paloumeire de Bazats et connétable de la machine de Guyenne là-bas.
Déjà, vous êtes un peu plus respecté.
Et je peux vous dire que j'ai ramé, hein, il faut pas croire. Hein. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a un art de vivre ici, à nul autre pareil.
D'ici d'en bas, d'ici d'enfance de là, je suis d'ici d'en moi, d'ici d'en haut en bas, je suis d'ici d'en soi, d'ici d'en bouche de toi, je suis d'ici d'en cas, d'ici d'en rouge de moi, je suis d'ici d'envie d'en faire jazzer, d'ici d'en délire de désir, d'ici d'en l'art, d'ici d'en dissonant, blues blanc.
Des tas de mondes coexistent, le monde des grands propriétaires qui possèdent les bois, le monde des métayers qui n'ont pas un sou, le monde des gens qui ont perdu leur travail dans les bois parce que les gemmeurs c'est fini, etc. Bon, il y a vraiment des tas de problèmes ici. Les jeunes s'en vont massivement, on a un mal fou à garder les services, on se bat pour conserver une poste, on se bat pour conserver un boulanger. Un boulanger, c'est l'âme d'un village.
Bien sûr. Je crois que vous êtes une quinzaine au kilomètre carré pratiquement.
Oui, entre 12 et 15, oui. Je crois, quelque chose comme ça. Et donc, on a de la vie, une justesse. Vivre dans ce pays, c'est essayer de conserver ce pays. Et les gens commencent à avoir une espèce de conscience collective et sont vraiment... Il y a des associations qui se multiplient. Vous savez, il faut pas avoir le mépris des gens de la campagne. Et ici, les gens remuent beaucoup dans ce sens-là. C'est allié à du conservatisme, indubitablement. Mmh. Et même à du corporatisme. Les chasseurs sont des gens redoutables. Mais vous savez, toucher à la palombe. Je voudrais dire un mot de la palombe parce que ça me semble un faux problème écologique, par exemple. C'est une tradition ici, c'est viscéral. C'est à la fois 6 mois de la vie d'un homme qui va tous les jours avec amour confectionner une espèce d'habitat souterrain. Et brusquement, tous ces gens-là, au mois d'octobre, on trouve plus un plombier, on trouve plus personne au mois d'octobre. Hein. Je veux dire, bon, on peut mourir sur place, tout le monde est à la palombière. Pourquoi ? Mais parce que d'un seul coup, c'est des vieux garçons qui se retrouvent au fond des bois et ils vont à la pêche au fond des bois avec des filets. Et ça viendra ou ça ne viendra pas, mais il y a l'art d'attirer les palombes, elles passent ou elles ne passent pas. Je veux dire, ce ne sont pas des vrais prédateurs, il y a des années sans et des années avec, mais l'art de la palombe, c'est viscéral, c'est pour eux le moyen de communiquer, de se raconter des histoires comme autrefois, avec toute l'exagération que ça comporte, c'est les légendes, c'est un monde d'où les femmes sont exclues, mais sauf peut-être quelques mauvaises femmes. Je veux dire, c'est un monde secret et drôle, et c'est le terroir, et c'est les traditions, et c'est très très important, et c'est ce qui leur permet peut-être de tenir le coup face à une société qu'ils ne reconnaissent pas. Oui.
Ceux qui sont peut-être un tout petit peu plus critiquables, ce sont peut-être des gens un peu plus parvenus, des gens qui viennent de l'extérieur avec la plume au chapeau et qui confondent ça avec du baltrap. Hein.
Ah bah oui, non mais dès qu'on se met sur une canne siège et qu'à midi moins le quart on fait un tableau pour Monsieur le Comte en mouillant les ailes des pauvres faisans, oui, et qu'on voit des dames en Mercedes qui disent tiens tu en prends 4 de plus parce que moi vraiment ce tableau, encore la semaine dernière il a fallu que ma gouvernante épluche les animaux.
Encore un drame de la misère.
Oui. Encore un drame de la misère. Je trouve ça c'est franchement insupportable. Et puis, c'est même des chasses qu'il faudrait supprimer, il faut bien le dire. Il faut supprimer peut-être la chasse à cours aussi, ou la pratiquer comme on la pratique en Allemagne, c'est-à-dire en fonction d'un cheptel d'animaux qui existe et qui est répertorié dans les bois. Je veux dire, il ne faut pas tuer pour tuer, il ne faut pas tuer parce qu'on est riche.
Thank you.
On arrivait par la route et on voyait toujours après cette Corrèze si verte, je me rappellerai, ce panneau qui disait le Lot. Et puis en dessous, il y avait marqué « Terre des merveilles ouais. ». Hein, et après ce panneau, c'est vrai, débutait une espèce de terre rouge complètement fascinante que moi j'adorais. Et puis ce pays escarpé, ce pays de broussailles, ce pays de gens fiers.
Et oui, toujours la parole vive, Jean Vautrin, donc, qui aimait cette nature très profondément. Et donc, vous avez compris que l'on a changé de lieu, on était dans les Landes girondines, et là, il nous parle du Lot, parce qu'il s'est posé avec Anne, que j'embrasse fort, son épouse, dans le Lot, avant de revenir après en région bordelaise. Et dans ce Lot un peu magique, même complètement magique, on n'était pas loin du Causse de Gramma, et là, il cherchait sa maison.
Faisons un passage par la première maison. On a acheté une bergerie, voilà comment on a débuté avec le Lot. Sur un vrai coup de cœur, c'était du côté de la Bastide Murat. On avait pris une petite route avec l'espoir tout simplement de pique-niquer au soleil. On avait trouvé un bon coin de genévrier. Et puis voilà-t-il pas qu'on voit une petite chapelle à côté. On s'en approche. Et puis au-dessus, il y avait une petite bergerie. Et là, on a eu vraiment un coup de cœur absolument formidable. C'était une maison avec des lauzes, bien sûr. Une citerne, et puis en face, la petite remise pour mettre les moutons. Elle était archi-classique, avec son puits, et puis des murettes qui cloisonnaient la propriété, et tout ça sur un escarpement rocheux, qui finissait dans un fond d'où partait une forêt immense qui s'appelle la Brogne. Et cette forêt est une forêt absolument miraculeuse, parce que même les gens du pays s'y perdent. Elle est emplie de légendes, elle a été un haut lieu de la résistance, évidemment, pendant la guerre. Et il est fréquent d'entendre des coups de fusil au fin fond de la Brogne, parce que des gens, même du pays, se perdent. Bon, voilà l'environnement donc de cette bergerie. Et après ce coup de cœur, nous nous renseignons pour savoir à qui est la maison. Et on nous dit, c'est un monsieur Andrieux. Alors, nous allons chez monsieur Andrieux et Robert, celui qui allait devenir Robert plus tard, qui pour le moment était encore monsieur Andrieux, n'était pas là, mais sa femme nous reçoit sur le pas de la porte et très gentiment nous parle, mais nous laisse au soleil. Je m'entête donc, et je reste. Je décide de passer la nuit à Cahors, je reviens le lendemain, on me fait rentrer dans la cour. J'apprends que la dame s'appelle Marthe. Et je pense que Anne a beaucoup plu à Marthe. Les deux femmes se sont plu, quoi. On a parlé de pas mal de choses, sauf de cette bergerie, bien sûr. Et puis, petit à petit, on s'est risqué à parler de ces pierres qui étaient si belles là-bas. Et on nous a répondu, mais ce sont les moutons qui vivent là-bas. Alors j'ai dit que je reviendrais, et nous sommes revenus beaucoup plus tard. Et elle se rappelait parfaitement. Une saison avait passé. Et elle a dit, mais entrez donc dans la maison.
Ah oui.
Et là, nous avons découvert Robert. Et il m'a laissé m'installer dans la bergerie. Et puis, dernier stade de l'amitié, quand l'amitié est donnée, on vous dit de venir casser le pain. Et alors là, fin du fin, on ne vous met plus de couvert, on ne vous met plus de couteau. Et le signe qu'on ne vous met plus de couteau veut dire que vous pouvez tirer votre propre canif de votre poche parce que vous êtes comme chez vous. Et ça, je trouve que c'est une suprême politesse, quoi. Et je ne l'ai rencontré que dans le Lot.
Jolie musique signée Delru, celle de Garde à vue, parce que Jean Herman, Jean Vautrin, a fait le scénario, entre autres. Il en a fait beaucoup, des scénarios de films, mais donc de Garde à vue, souvenez-vous, donc avec... Ventura d'un côté et Serrault de l'autre. Merci ami Jean, merci à Valentin Azan, Élise Christophe à la technique, à Maud Sarano, à Séverine Bouvard, à Christophe Imbert qui a colorisé toute cette année et l'année précédente et sûrement l'année prochaine. CO2 mon amour, merci à Albert Houck, à Thierry Dupin qui a choisi les disques, à Anne Gouzon qui nourrit les sites de CO2 mon amour depuis longtemps. Alors c'était la dernière de la saison, on va se retrouver le 29 août. Et puis entre-temps, on va vous retrouver quand même à partir du 29 juin, hein, en émission quotidienne entre 14h et 16h. Hein, On y va, on se lance. Ça va s'appeler Nature à la carte. Donc il y aura de la nature, il y aura des gens connus qui vont se raconter avec leurs itinéraires de vie. Le premier, ce sera Jean-Claude Amezen. Je ne vais pas vous le présenter, mais c'est vrai que ça va être intéressant de le découvrir d'une manière tout à fait différente. Et puis la Tulu, mon petit loup, ce seront des rediffusions à 19h54 tout l'été, comme vous en avez l'habitude.